L'été à soi, avec Promotion Santé Suisse et santépsy.ch, unis pour promouvoir votre santé mentale. Un été à soi. Jonas Schneider.
Vous avez reçu un email, un push d'actualité, un coup de téléphone, un message sur votre messagerie instantanée, une notification des réseaux sociaux, et puis il y a peut-être en fond une chaîne d'infos en continu. Avec tout cela, arrivez-vous à préserver votre santé mentale? Comment se protéger de la surcharge cognitive, surcharge émotionnelle, surcharge de travail, surcharge d'informations et maintenir sa santé mentale? C'est le thème du jour. Bonjour et bienvenue dans Un été à soi. Et Sophie Vassutine, vous nous dites quelques mots sur la thématique. Bonjour Sophie.
Bonjour Jonas. Alors, il y a quelques jours, vous avez peut-être reçu, comme moi, une notification sur votre smartphone de votre temps d'écran hebdomadaire, vous indiquant la façon dont votre appareil est utilisé, les applications que vous avez ouvertes et les sites web que vous avez consultés. Force est de constater que les chiffres ne sont pas beaux à voir hein, et que votre temps d'activité est peut-être même en constante augmentation.
Comment décririez-vous votre relation avec votre mère? Merci. Veuillez attendre pendant que votre système d'exploitation est initialisé.
Bonjour, je suis là.
Salut.
Salut, je suis Samantha.
Pas de panique, hein, on n'ira peut-être pas jusque-là. Maman et papa Apple sont là pour préserver votre bien-être numérique et vous protéger de toute surcharge informationnelle. La surcharge informationnelle, surinformation ou infobésité, alors parlons-en, hein, un terme morbide sur trois pour désigner l'excès d'informations reçues par une personne, des informations qu'elle ne peut plus traiter ou supporter sans se porter préjudice à elle-même ou à son activité. Si 20 minutes c'était déjà trop et qu'on avait déjà plus le temps, comment faire short pour faire le tri entre les informations pertinente et non pertinente en 24 heures top chrono? Que faire de ce flux tendu d'informations qui nous inonde du lever jusqu'à notre chambre à coucher?
On pourrait peut-être faire pareil, au moins pas d'écran dans le lit. Ben où tu vas?
Tu m'as dit plus d'écran dans le lit.
Voilà une situation qui peut arriver hein, quand on y voit plus clair dans ce nuage informationnel, comme l'appelait déjà le sociologue Edgar Morin dans les années 80. C'était sans compter l'arrivée des emails, notifications des réseaux sociaux, messageries instantanées et autres cagnottes litchi. Pour par la suite, autant de canaux qui génèrent ce bruit informationnel, autant d'acouphènes qui dispersent notre attention.
Je m'occupe de toi, dès...
Comment gérer cette surstimulation informationnelle alors que les capacités de notre cerveau d'acquérir, de stocker et d'assimiler l'information restent inchangées? Le sevrage numérique est-il la seule solution pour réduire sa consommation digitale et garder sa tête hors du cloud?
Pourquoi tu me forces à garder ce portable? J'en ai marre, je ne sais quoi faire, quoi penser, quoi chanter. Détox, c'est ça qu'on doit faire.
Informatique, portable, tu coupes tout.
Hop, plus de portable.
Nous ne sommes bien sûr pas toutes et tous égaux face à l'impact de ces sollicitations. Le sentiment d'en être victime ou non varie bien évidemment selon le contexte et les individus. Cependant, selon les spécialistes, l'obligation de répondre rapidement aux sollicitations est de toute façon une source de stress, que cela soit pour le travail ou sur le plan privé. Mais là encore, hein, papa et maman Apple vous permettent de prendre des décisions éclairées sur l'utilisation que vous faites de vos appareils grâce aux options ne pas déranger, repos ou un temps pour soi. Ça tombe bien, on y avait aussi pensé.
Merci Sophie Vassutine. Et bonjour Olivier Glasser.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et spécialiste du numérique. On notera déjà que dans ce studio, vous êtes le seul à ne pas avoir posé votre smartphone sur la table. Ça en dit peut-être long sur la discussion que nous allons avoir tout à l'heure sur la surcharge informationnelle. Je vous propose d'abord d'écouter un reportage. Nous allons à la rencontre de Eve, qui est une jeune vaudoise qui a choisi d'agir face à ce que l'on nomme parfois l'infobésité ou la surcharge informationnelle. Et nous sommes allés la rencontrer lors d'une balade dans le Lavo, un endroit qu'elle utilise pour se déconnecter ou peut-être justement pour se reconnecter. C'est un reportage de Loïc Delacour.
Alors nous allons à Grandvaux, proche de mon cabinet, là où je fais mes séances avec mes clients, donc je suis psychologue. Et puis ils ont le choix de faire soit en cabinet, soit en marchant dans le Lavo, et c'est ce que nous allons faire justement tout à l'heure, c'est là où on va aller.
Alors, on est direct un peu dans le sujet, hein. On va parler d'infobésité, donc trop d'informations. Là, on est rentré dans la voiture, on a tout de suite la radio qui s'est mise. Ça, c'est quelque chose que vous faites quand vous êtes en voiture, vous écoutez la radio, si oui, quelle chaîne, quel type de programme?
Alors, ce que je mets généralement, c'est la radio jazz, en fait, il n'y a pas de nouvelles, pas de publicité.
Mercurochrome, le pansement des héros.
tomber sur des nouvelles, mais c'est pas ce que j'écoute en premier lieu.
Ça vous arrive d'être en voiture et d'avoir des flashs qui arrivent, là, il y en a bientôt un qui va arriver. C'est des choses qui peuvent aussi vous agresser, des moments où vous n'aviez pas forcément envie de l'information.
Au départ, oui, quand j'avais pas conscience encore de l'effet que ça me faisait. Mais maintenant, quand je les écoute, j'ai pris une telle distance, puis de prendre les choses vraiment avec des pincettes et avec une perspective beaucoup plus globale, on va dire, qui fait que je suis pas aussi prise émotionnellement et que j'analyse les choses de plus loin, on va dire.
En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes, un chiffre beaucoup plus important selon des scientifiques. Une épidémie qui inquiète, d'autant plus que le nouvel an chinois approche.
Ça a commencé avec le Covid. On était tous sur notre télévision à savoir ce qui se passait, ce qui allait advenir de nous. C'était une situation de crise. Et puis au fur et à mesure, c'était de réaliser que l'impact des nouvelles avait plus d'effet que la situation de crise en elle-même et que ça créait d'autant plus d'anxiété. Enfin, c'était tellement compliqué à savoir qu'est-ce qui était plus compliqué que l'autre à gérer entre la crise et puis les nouvelles et la peur que ça a généré qu'au final, j'ai opté pour couper. J'ai réalisé que j'étais beaucoup mieux en fait après ça, même si ça n'enlevait pas le fait qu'il y avait toujours des gens qui mouraient, que ce soit du Covid ou autre chose. Hein. Mais au moins, mon mental était préservé et mes émotions aussi. Quoi.
Couleur 3, 10h.
RTS Info, Frédéric Vollery.
En Inde, les secours s'efforcent ce matin de désincarcérer les nombreux voyageurs pris au piège sous les carcasses métalliques des wagons de la collision d'hier soir entre trois trains qui a fait au moins 288 morts et 850 blessés. YouTube ne supprimera plus les fausses informations sur l'élection présidentielle américaine de 2020. Une annonce faite hier par la filiale d'Alphabet qui prend effet immédiatement.
Vous disiez avant, maintenant c'est bon, hein, vous avez... un travail là-dessus. Vous êtes moins touché par ce genre de flash qui arrive comme ça sans prévenir, parce qu'on regarde pas forcément l'heure.
Je réalise que je suis quand même touchée. Je pense que le fait d'être avec vous, j'ai porté beaucoup plus attention aux informations qui étaient données et je dois vous dire que j'ai ressenti énormément de tristesse et de colère en entendant certaines informations. Ça me prend quand même pas mal émotionnellement. Je pourrais tout à fait m'épargner ça en fait. Donc c'est un peu pour ça que je décide de couper et puis de faire ma vie dans des choses bien plus positives. Je me dis mais il y a plein de solutions aussi et c'est chouette de pouvoir reconnaître ce qui se passe de mal, mais de pouvoir aussi donner des solutions et pas juste d'être dans ce désarroi, cette peur qui est fatigante. Puis moi qui m'attriste terriblement en fait.
Là, concrètement, il y a une news plus qu'une autre qui vous a peut-être plus touché.
Le train, ça m'a touché. C'était la tristesse, là. Et puis, cette histoire de Twitter et de YouTube, c'était de la colère et en même temps un peu d'ironie dans tout ça. Le fait de me couper aussi des médias, c'était qu'en fait, j'en avais ras-le-bol. Du fait qu'on nous restreignait les libertés de pas pouvoir choisir si oui ou non on allait s'injecter des choses ou pas. Et du coup, ce lien avec YouTube, de permettre des informations, qu'elles soient vraies, fausses ou égales, juste la liberté d'expression.
On se retrouve dans le début du Lavaux, à Grandvaux. Pourquoi on est spécifiquement ici, sur ce chemin-là qui s'avance dans les vignes?
Oui, alors c'est là où je donne mes séances de consultation, de suivi psychologique. Et c'est une façon pour les gens de pouvoir calmer un peu leur système nerveux, d'être toujours en contact avec leur ordinateur, être dans la ville, etc. On est toujours sous une forme de stress. Puis le fait de pouvoir marcher dans la nature, ça a été prouvé scientifiquement que ça calme complètement le système nerveux et ça permet aussi de mieux oxygéner l'esprit et d'avoir davantage d'idées et de solutions qui émergent.
C'est quoi vos premiers rapports un peu à l'information?
C'était au Maroc avec mon grand-père qui a gardé les nouvelles. Moi, je suis d'origine suisse et d'origine marocaine. Il fallait absolument qu'il soit devant les informations et je trouvais ça intéressant. C'était un moyen de rythmer la journée. Et puis, je ne les regardais pas plus que ça et je me concentrais pas plus sur les images, mais c'était l'activité de mon grand-père. C'est comme ça que je m'en souviens.
Et par rapport à vous, votre consommation de médias ou d'informations, elle a commencé jeune?
Je me suis intéressée un peu plus aux médias à partir du moment que j'ai voulu travailler dans la coopération internationale après mes études et que je suis partie en Équateur. Et là, ça a été très important en travaillant comme volontaire des Nations Unies de pouvoir être au courant de ce qui se passait dans le pays, de comprendre les politiques pour pouvoir être plus efficace en fait. Donc c'est à ce moment-là que je me rappelle m'être abonnée à différents journaux, différentes sources d'informations sur Internet par exemple, mais aussi sur Facebook. Et que là, je crois que j'ai consommé énormément d'informations à ce moment-là, ouais.
Puis à quel moment finalement ça a été un peu le trop-plein?
Il y a eu deux moments. Le premier c'était justement en étant en Équateur. J'ai de la famille en Israël et il y a eu ce moment où en 2014, si je ne me trompe pas, il y a eu un grand clash, comme ça arrive assez souvent. Mais c'était vraiment cette histoire de scission, comme on a pu voir aussi avec le Covid, de gentils méchants. Et puis le fait que, de manière très pragmatique, plusieurs de mes cousins allaient sur le front et puis beaucoup de soldats se faisaient tuer. C'était un stress permanent. Et la façon que j'ai trouvé pour m'en sortir, c'est un, de couper et puis de me confier à mon ami là-bas. Donc ça, c'était le premier moment. Et le deuxième, c'est comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'était au début du Covid.
C'est quoi dans ce moment-là, dans cette période justement, qui a déclenché quelque chose de négatif chez vous?
C'était le surplus, c'était vraiment, je crois, matin, midi et soir, deux à trois fois par jour d'entendre ces nouvelles et puis ce sentiment de peur qui s'accumule, d'anxiété. Je ne dis pas que j'ai vécu un burn-out du tout, mais je peux comprendre que certains l'aient vécu. C'est vraiment cet état de stress constant, chronique. Qui dure pendant environ 6 mois. C'était juste pas tenable dans cette situation. J'étais plus connectée à moi, j'étais très mal.
Et qu'est-ce que vous avez entrepris concrètement?
J'ai juste coupé la télévision.
Ce virus qui a fait
épidémie.
J'ai aussi, j'avoue, trouvé un peu du soutien. On avait besoin, je pense, dans cette période-là, de trouver des gens qui résonnaient de façon similaire, un peu comme un groupe de soutien, on va dire, hein, mais avec des personnes proches de soi. Et puis de retourner dans la nature, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose là, de voir mes amis qui avaient la possibilité d'être en montagne, qui se sont sentis tellement bien durant cette période, versus ceux qui étaient en ville. C'était vraiment jour et la nuit, donc je pense que le fait de se connecter au réel, à la nature, à ce qui se passait, faisait que ce soit vraiment différent pour les uns ou pour les autres.
Je ne sais pas s'ils nous ont vus, il y a deux biches qui se promènent dans les vignes.
Ils nous regardent en étant à l'affût, on dirait. C'est drôle. Ouais, c'est important d'ouvrir les yeux et de ne pas être trop focaliser sur son histoire. C'est une des belles leçons, je pense, de ce chemin qu'on est en train de faire. De ne pas rester trop coincé dans cette bulle d'informations qui nous empêche d'être connecté au monde réel, en fait. On peut se perdre facilement dans la tête et dans des pensées qui nous procurent des émotions pas forcément belles, alors que, waouh, là, juste en face de nous, on a quelque chose de tellement beau et fabuleux.
Un reportage de Loïc Delacour avec Ève, que l'on entendait à l'instant. Olivier Glasset, vous êtes sociologue et spécialiste du numérique. On vous retrouve. Votre réaction au témoignage de Ève au milieu des vignes?
Je trouve que c'est un beau témoignage. C'est un témoignage qui décrit, je pense, une expérience que, avec sous des formes différentes, beaucoup d'entre nous ont vécu pendant cette période. Peut-être des fois en trouvant d'autres solutions ou en ayant d'autres moments de bascule. Mais je pense que ce qui est décrit là et que je trouve vraiment qui revient à plusieurs fois dans le reportage, c'est ce cumul entre une saturation des flux d'informations qui génère une forme d'anxiété, et tout ça est associé aussi avec une forme d'impuissance, ne pas pouvoir agir, ne pas pouvoir choisir, ne pas pouvoir faire quelque chose de ces informations dont on est bombardé en permanence, ça crée un univers un peu traumatisant pour notre manière d'appréhender le monde et voilà, on va essayer de trouver des ressources pour échapper à ce cercle non vertueux de l'information en permanence.
Les termes qu'on utilise sont intéressants, mais on a un peu tendance à tout mélanger, pourtant ces termes pourraient nous permettre de décrire quand même des réalités différentes. Il y a l'infobésité, il y a la surcharge informationnelle, on entend aussi parler de surcharge interactionnelle qui est aussi liée au numérique, on entend parler de fatigue du numérique, tout ça en fait, il y a des réalités différentes derrière. On a beaucoup entendu chez Ève la surcharge de l'actualité, ce qui pourrait vraiment être l'infobésité. La première fois qu'on entend ce terme, c'est souvent lié à l'actualité, au flash info, aux informations dramatiques qui sont proches ou qui sont loin. Est-ce qu'il y a une différence entre cette infobésité ou la fatigue de l'actualité et la fatigue de la notification qui vient des réseaux sociaux, par exemple?
Alors, je pense qu'on pourrait les fédérer d'une certaine manière. Alors, effectivement, il y a beaucoup de terminologies qui ont été utilisées, mais on pourrait parler sans doute de débordement cognitif. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'arrive plus à processer cette information, à la métaboliser, à lui donner du sens. Peu importe qu'il s'agit de, j'allais dire, des sollicitations sur WhatsApp ou de l'actualité, ou dans le contexte professionnel, il y a un moment où il y a une forme de débordement, il y a une forme de perte de maîtrise et du rapport que l'on a avec ce flux d'informations dont une grande partie est plus ou moins utile, plus ou moins fait du sens, mais aussi souvent ne constitue en définitive qu'une sorte de bruit sur lequel nous n'avons pas prise. Et je pense que c'est ça qu'il y a en commun. Alors après, effectivement, c'est sensiblement différent si on parle de l'actualité qui tourne en boucle ou si on parle des messages qu'on peut recevoir de son supérieur ou de sa supérieure hiérarchique au milieu de son week-end et des réactions que ça peut susciter. Là, mais bon, voilà, c'est tout ça participe en fait d'un monde très connecté où en fait le surgissement de l'information à la fois et peut être continu, mais surtout il peut être inopiné, il peut être inattendu et en cela il va aussi perturber notre rapport à notre ici et maintenant de ce qu'on est en train de faire, de nos rapports avec d'autres personnes ou avec nos activités. Et cette contamination permanente, elle est de l'urgence ou de l'information ou de la sollicitation ou de l'alerte qui va venir nous perturber. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez systématiquement en fait dans ces différents univers.
Et l'impression au final que tout se vaut parce que tout suscite la même notification, le même stress, le même débordement cognitif et finalement une réduction de 20% sur une télévision. Ah, il y a Olivier qui a liké ma photo. J'ai un collègue qui me demande une information et tiens, il y a un sous-marin porté disparu proche de l'épave du Titanic. Tout ça, au final, se vaut dans l'esprit. On a de la peine à trier tout ça.
Alors, c'est peut-être important de le dire justement à propos de ces situations-là, de dire que ça n'arrive pas par hasard. Toutes ces sollicitations, elles sont le fruit de modèles économiques, mais aussi d'une architecture informationnelle. Il y a des experts en captologie, c'est-à-dire des experts sur la manière de capter l'attention des personnes qui vont développer des interfaces utilisateurs, les types de notifications, et même si Apple se dédouane, entre guillemets, en nous donnant le nombre d'heures qu'on a trop passé sur leur smartphone, en fait, ce smartphone va héberger énormément de système destiné à s'assurer qu'à un moment ou à un autre, on va interrompre ce qu'on va faire pour s'intéresser à telle ou telle application. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a vraiment une infrastructure numérique qui est porteuse, en fait, de ça. Et c'est difficile, disons, de stigmatiser une seule application, un seul univers, car beaucoup de choses participent à ce qu'on appelle l'économie de l'attention, où il y a une vraie compétition pour être les premiers à vous détourner de ce que vous êtes en train de faire.
Des gens du numérique qui doivent capter notre attention sans nous écœurer et qui du coup ont un peu un double discours effectivement, on en parlera, mais juste pour terminer sur l'aspect actualité, quelque chose d'autre que Eve a dit et qu'on entend souvent, c'est cette idée que des médias qui nous donneraient des solutions, donc des actualités liées à des solutions, seraient des médias qui peut-être nous fatigueraient moins que des médias qui nous parleraient que de problèmes. Eve a dit, s'il y avait plus de journalisme de solutions, peut-être que j'écouterais davantage les flash infos. Comment vous entendez cette idée?
Je l'entends avec sympathie. Après, l'histoire nous dit il y a plusieurs tentatives de journaux, de bonnes nouvelles ou de radios très positives. Hein, ça existe d'ailleurs. Vous pouvez les trouver. Malheureusement, j'allais dire, elles ne sont pas des grands succès commerciaux. Alors après, est-ce que c'est la nature humaine ou est-ce que c'est l'intérêt que quand même on a pour un certain type d'information qui n'est a priori pas que positif. J'allais dire, peut-être l'enjeu est sans doute dans l'équilibrage, parce qu'effectivement, on peut peut-être regretter qu'il y a des formes des fois de surenchère d'informations un peu dramatiques et que des informations plus positives ont difficilement leur place dans les titres d'une actualité, et peut-être que ces équilibrages pourraient être trouvés. L'histoire nous dit que le que positif n'intéresse pas encore forcément un public suffisamment important souvent pour que ce soit des initiatives durables, mais peut-être que ça changera, on peut peut-être l'espérer.
Ce qui a changé ces 15 dernières années pour celles et ceux qui consomment les médias, c'est qu'à l'époque, on faisait le tri pour elles et pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient accès qu'à peu d'informations dans des moments clés et le tri avait été fait. Aujourd'hui, le tri n'est pas fait. Vous avez accès à toutes les informations en temps réel et c'est à vous de faire le tri. Est-ce qu'on est bien équipé en tant que consommatrice, consommateur de médias pour faire le tri sans que cela nous envahisse finalement?
Dans le reportage, c'est revenu à plusieurs reprises, le fait qu'il y avait des formes de pré-tri, mais qui étaient aussi compliquées, c'est-à-dire qu'il y a cette forme de polarisation dans les chambres d'écho, qui sont renforcées par les algorithmes, mais aussi par les choix que vous faites en naviguant vous-même sur Internet ou sur vos réseaux sociaux. Vous allez vous construire votre petit univers dans lequel il y a des formes de redondance, et quand les autres points de vue apparaissent, c'est souvent sous une forme conflictuelle. Et c'est d'ailleurs cette idée de conflit ou d'incapacité à échanger, à construire un dialogue qui permettrait peut-être de trouver des lieux de dialogue ou de réflexion commune. Cette difficulté-là, elle fait en sorte que les personnes se retrouvent pris à partie. C'est-à-dire très vite, c'est dans quel camp vous êtes. À la fois, il y a une masse d'informations, mais très vite, cette information, elle est structurée de manière très polarisée, manichéenne, et ça aussi, je pense que c'est assez éprouvant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retirent, en fait, justement, des médias sociaux, parce qu'ils ont peut-être un intérêt à s'informer, mais ils n'ont pas envie de se transposer immédiatement dans des formes de guerre civile autour de tel ou tel élément de l'actualité, où à chaque fois, il y a une injonction de dire si on est pour ou contre, et ça, c'est quelque chose qui est très marquant, notamment dans les épisodes du Covid, sur lesquels elle revenait à plusieurs reprises.
Alors, vous l'avez dit, les solutions font moins vendre que les problèmes, on va quand même essayer, sans perdre trop d'audience, de parler un peu de solutions, si vous êtes d'accord, Olivier Glasset. Mis à part la déconnexion, qui est la solution la plus évidente, il suffit de plus allumer la radio, plus allumer son téléphone, plus allumer la télévision, et là, on aura moins de surcharge informationnelle, c'est évident. Pourtant, c'est pas la solution idéale, sûrement. Tout le monde n'est pas prêt à faire ça, et est-ce que tout le monde a intérêt à faire ça, c'est même pas sûr. Quelles sont les autres solutions qu'on a à notre disposition?
Alors, il y a plusieurs solutions. Déjà, peut-être juste pour dire, pour la déconnexion, il y a la déconnexion subie et la déconnexion choisie. La déconnexion subie, c'est quand les gens n'en peuvent plus. Elle est souvent proche du burn-out, mais il y a quand même des cas dramatiques où les gens, simplement, un peu comme un disjoncteur ou un pétage de plomb, il y a un moment où on se déconnecte, mais parce qu'on est dans une situation de crise très forte.
On n'a plus le choix. On doit se déconnecter, donc on se déconnecte.
Après, dans la déconnexion volontaire, il y a différentes échelles. Entre la retraite, où on s'extrait pendant peut-être des fois plusieurs jours, même voire plusieurs semaines ou plusieurs mois du numérique, ou des choses qui sont peut-être plus subtiles, mais qu'on connaît peut-être un peu mieux, c'est des formes au niveau du quotidien, c'est-à-dire comme une petite sieste numérique, c'est-à-dire qu'on va se déconnecter pendant un moment, on va laisser nos appareils de côté, enfin ce genre de choses, qui sont des petits ajustements, mais qui sont sans doute très importants dans la manière qu'on a de pouvoir s'approprier ce temps pour nous. Après maintenant, alors quelles sont les autres solutions? Je pense qu'on pourrait réfléchir en termes d'échelle, c'est-à-dire est-ce que c'est, alors déjà pour nous-mêmes, effectivement, ça a été d'ailleurs évoqué dans l'introduction, on peut pratiquer, je veux dire, le tri sélectif des informations ou de nos activités communicationnelles et peut-être repenser les hiérarchies et le temps qu'on leur destine. On peut aussi penser dans le rapport à l'autre, sans forcément rentrer sur les questions des réseaux sociaux, mais dans les rapports inter-individuels, il me semble qu'il y a une forme de parcimonie informationnelle qui serait proche d'une forme de civilité, voire de politesse numérique.
Soyez plus concret.
Oui, alors c'est très concret. Est-ce que j'envoie un message, quand j'envoie un mail, quand j'envoie une notification, peu importe, est-ce que je me mets simplement dans la perspective de la personne qui envoie ou est-ce que je me mets aussi dans la perspective de la personne qui reçoit? Et est-ce que j'imagine tous les autres messages que cette personne va recevoir? Est-ce que ce que j'envoie est si important que cela? Est-ce que ça doit prendre autant de place? Quel est le degré d'urgence? Et que cet exercice de penser que l'attention de l'autre, et c'est pour ça que je parle de parcimonie informationnelle, l'attention de l'autre est quelque chose de rare, de précieux, qui est important dans son quotidien. Je pense que réfléchir avant d'envoyer un message, entre guillemets, à la perturbation de son attention, c'est peut-être une forme contemporaine de politesse pour laquelle il faut encore inventer toutes les règles de civilité, mais c'est pas inutile d'y penser.
Donc ne pas écrire, c'est prouver que l'on veut prendre soin de la personne à qui l'on n'écrit pas.
Alors, de pas écrire.
C'est une très bonne excuse pour ne pas souhaiter un bon anniversaire, par exemple.
Ne pas écrire n'importe quand ou, enfin, ne pas écrire juste parce qu'on peut écrire, mais essayer de, j'allais dire, quel est le sens que l'on donne à cette écriture. Et ça peut, c'est à la fois le contenu, mais ça peut être aussi la forme. Enfin, je veux dire, si vous avez utilisé WhatsApp, il y a, voilà, vous avez la version audio et la version écrite. Alors, il y a des conflits très forts entre les gens qui préfèrent envoyer des petits messages audio et des messages écrits. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, je juge pas ni l'un ni l'autre, mais quand on écrit un petit message audio, en fait, on préempte le temps que va devoir passer l'autre personne à écouter votre message audio pour enfin pouvoir y répondre.
Donc ça, c'est l'échelle individuelle, la responsabilité individuelle, ce qu'on peut faire. Et puis, il y a l'échelle collective. Oui, on pointe souvent les géants du numérique, on va quand même en parler, ce qu'ils peuvent mettre eux en place. Mais à l'échelle de l'État, de la loi, etc., est-ce que là, vous voyez aussi des choses qu'on devrait faire en tant que communauté?
Oui, alors, avant même d'arriver à l'État, j'ajouterais encore un échelon intermédiaire qui est celui des collectifs. C'est-à-dire, prenons l'exemple du WhatsApp familial, ou du groupe d'amis sur les réseaux sociaux, là, ou à l'intérieur d'une entreprise, dans l'intranet. Et là, ce qui, moi, me paraît très important, c'est à quel moment et sous quelle forme on explicite les attentes que nous avons les uns par rapport aux autres en termes de, non seulement de communication, de nombre de messages, mais aussi de réactivité. Comment est-ce qu'on se met d'accord sur le temps de non-connexion qu'on respecte dans une entreprise ou dans une organisation, le fait que, par exemple, le week-end ou en dehors des heures de travail, eh ben, il n'y a pas forcément nécessité d'envoyer des messages, et si on le fait, on n'attend pas la réponse avant le retour du lundi. Il y a des entreprises qui ont formalisé ça, mais je pense que même dans des groupes d'amis et même dans des groupes familiaux, des fois, le fait de se dire les choses, c'est-à-dire, ben, moi j'envoie un message, mais prenez votre temps pour répondre, ou à moins que ce soit vraiment urgent, vraiment, ça, c'est le fait d'expliciter, de dire ce que l'on pense, c'est un non-dit absolu. En fait, on crée des groupes et puis tout le monde dit. Et puis des fois, on en a marre d'entendre les messages plus ou moins importants des autres, et on n'arrive pas à se parler de ça. Donc, je pense qu'il y a à ce niveau des collectifs, il y a déjà un premier niveau d'explicitation et de discussion.
Pour prendre un exemple extrême, si vous êtes président des États-Unis, vous ne faites pas le tri des informations qu'on vous donne. Des gens font de tri pour vous et vous avez que les informations sélectionnées. Les WhatsApp pas importants, vous les aurez jamais dans l'axe du regard. Et effectivement, si vous avez pas les moyens d'avoir quelqu'un ou quelque chose qui fait le tri pour vous, vous êtes vraiment exposé autant au spam qui vient d'une arnaque de l'Est que du message de grand-maman qui était pas si important, ou du message de grand-papa qui est ridicule, finalement.
Oui, alors ce qu'on voit aussi apparaître maintenant, c'est l'intervention de l'intelligence artificielle, en fait, même dans vos boîtes mail qui commencent. Alors, il y avait déjà le tri du spam qui existait. On ne voit qu'une pointe infinie. Infime de tout ce qu'on nous a envoyé sous forme de spam. Et puis après, maintenant, on voit apparaître la catégorie prioritaire et la catégorie secondaire. Peut-être il y a des choses qu'on va pouvoir affiner. C'est toujours un peu délicat, parce que ça veut dire qu'on va déléguer à un agent plus ou moins intelligent cette activité de faire du tri. Et c'est, alors voilà, ça nous aide sans doute à aller à l'essentiel. Ça permet peut-être d'éviter, parce que ça c'était très fort, et notamment à tous les âges, mais souvent on parle des adolescents très connectés, mais il y a une forme de fatigue social network, fatigue sociale, comme on l'appelle, c'est-à-dire que la sursollicitation, le fait de recevoir en permanence des messages auxquels on se sent obligé de répondre, finit par créer une envie de se déconnecter, parce qu'elle est justement, comme on le disait tout à l'heure, ça crée des obligations auxquelles on ne peut pas répondre. Et face à cette multitude d'obligations auxquelles on ne peut pas répondre, ben des fois, la seule envie, c'est de se soustraire à tout le système, en fait.
Prenons une minute pour terminer, pour parler des géants du numérique qui ont cette position de devoir effectivement capter notre attention, mais qui n'ont pas intérêt à ce qu'on ait besoin de la déconnexion subie dont vous nous parliez, c'est-à-dire de nous écœurer et nous forcer à nous déconnecter. Ils doivent donc capter notre attention sans nous amener au burn-out. Il y a une espèce de juste milieu de pouvoir jouer avec sa proie sans la tuer.
Oui, effectivement, c'est un équilibre assez délicat. Alors, très souvent, disons, leur encouragement est plutôt de dire, voilà, si vous restez dans notre écosystème, c'est-à-dire nos applications, on va vous aider à mieux gérer le système. Mais n'allez pas ailleurs, ne multipliez pas, parce que là, alors effectivement, il y aura une forme de surcharge. Donc, en fait, chacun voit un peu son midi numérique à sa porte, hein, et prend soin de notre attention à l'échelle de ses propres activités. Et puis, effectivement, alors, c'est vraiment aussi à l'aune, enfin, il y a une dimension un peu marketing, c'est-à-dire que c'est parce que cette préoccupation elle est devenue forte auprès de certains de, leurs utilisateurs et utilisatrices que tout d'un coup c'est commencé à rentrer dans le discours et dans certaines des applications. Mais est-ce que c'est parce qu'on a une traçabilité hebdomadaire du nombre d'heures qu'on a passé sur leur système que ça nous donne vraiment les moyens d'agir? Est-ce que la parcimonie, la limitation, est-ce que c'est des choses qui, est-ce qu'ils nous fournissent vraiment des outils qui nous permettent de mieux gérer ça, de nous soustraire, de nous désabonner facilement à certains de, leurs services, à ces flux de nouvelles? Je suis moins sûr de, en fait, de cette volonté de nous aider à ce point-là.
C'était très intéressant de, vous avoir, Olivier Glasser. On aura compris que si vous êtes un proche d'Olivier, vous ne lui envoyez pas un message pour le féliciter de son interview à la radio. Pensez à la parcimonie numérique.
Je répondrai pas de toute façon.
Merci beaucoup, Olivier Glasser.
Merci.
Et lundi, Sophie, un autre terme à la mode après l'infobésité, ce sera...
Oui, lundi, climato-sceptique s'abstenir. Hein, nous parlerons de l'éco-anxiété.
Pour aujourd'hui, merci à Raphaël Vurlo, Bastien Testori, Jonathan Lemieux, Yannick Ozaman, Fanny Ossauer, Colline de Senarclan, Mediette Mani et Thierry Schwaub. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Manuel Amaury sur la première avec Je veux du soleil. Bel après-midi, à demain. Il va être 14h sur la première.